fall into big savings, all in the Kroger app.
Get packs of juicy red, green, black, or tri-color variety seedless grapes for $3.99 each. Then get tender boneless chuck roast or steaks for $4.99 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Chapitre 5 de La Fabrique de Crimes de Paul Féval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. LDFEV-IATV-DEJ-T. La jeune et belle Elvire de Rudelame Carthagène reprit ses sens, but un verre de rhum et poursuivit en ces termes. Oh, mes chères bienfaitrices, malgré la distance qui sépare nos positions sociales, ma reconnaissance ne finira qu'avec ma vie. Je veux tout d'abord modérer l'étonnement que pourrait vous causer le crime de la chambre sans porte ni fenêtre. La seule chose surprenante, c'est que mon bisaïeul eût pu garder la barre de fer rouge sous sa chemise. Mais, outre que c'était pour l'empêcher de refroidir, nous sommes à Londres. À Londres, on en voit bien d'autres. Et quant à l'atrocité du forfait, ma famille est depuis longtemps habituée à ne se rien refuser. Le marquis, mon père, s'est amusé une fois à faire le relevé des crimes et délits appartenant en propre à notre maison, depuis le règne de Henri II jusqu'à Louis-Philippe seulement. Il y a 81 meurtres, dont 2 parricides, 7 fratricides des deux sexes, 3 tanticides, 5 onclicides, 13 neveux et niécicides, 8 infanticides, 23 adultères, 19 incestes. Il y a des instants, s'interrompit ici la jeune accouchée avec un désespoir impétueux, où je préférerais avoir reçu le jour au sein de la misère. Ah, gardez vos mœurs innocemment égrillardes, fillettes du commun. Cette atmosphère de sang et de honte est loin d'être agréable à la longue. Le lendemain matin, mon bisaïeul chercha le cadavre de sa femme, car il voulait le faire embaumer par un dernier caprice. À sa place, il trouva un billet ainsi conçu. LDFEV-IATV-DEJ-T. Ce mystérieux écrit le remplit d'inquiétude et d'alarme. Il se creusa la tête en vain pour en deviner la signification. Tant d'initiales accumulées devaient cacher une menace. Qui donc avait pu entrer dans cette chambre sans porte ni fenêtre? Il y avait la cheminée. Mon bisaïeul la fit aussitôt fermer à l'aide d'une grille en acier fondu. Mais il était trop tard. Il fut malade dangereusement. À peine remis sur pied, il ordonna à ses nombreux domestiques de regarder sous les lits et dans tous les tiroirs des commodes. Le cadavre de la duchesse resta introuvable. Cela aigrit d'autant le caractère de mon bisaïeul, qui déjà n'était pas trop tendre. Il devint cruel et, dans le silence du cabinet, ses meilleurs amis le surprirent souvent torturant des insectes ou soumettant des animaux domestiques à différents supplices. En ce temps, plusieurs petits-enfants de son quartier disparurent et toutes les recherches demeurèrent sans résultat. Il les avait coupés par morceaux sans utilité apparente. Il avait d'ailleurs bien des motifs de mauvaise humeur. De même que le cadavre de la duchesse était irrencontrable, de même le mystérieux billet restait intraduisible. Monsieur le duc s'était adressé aux hommes d'affaires les plus habiles. Aucun d'eux n'avait pu lui donner le mot de l'énigme. Il l'entendit parler un jour d'un personnage étonnant qui passait pour être le fameux Gagliostro, bien que celui-ci fût mort au château de Saint-Léon, dans la campagne de Rome. Mais cela ne fait rien à l'affaire. D'autres prétendaient qu'il était le non moins célèbre comte de Saint-Germain, bien que ce dernier fût décédé à Schleswig. Qu'importe. La chose certaine, c'est que ce personnage faisait de nombreux miracles. Il avait guéri le catarrhe de la reine et sauvé un enfant de Pitt et Cobourg qui tombait du haut mal. Londres entier le consultait pour les objets égarés, les corps aux pieds et les engelures. Il se nommait le docteur Fandango. Ce nom produisit dans l'atelier des piqueuses de bottines un effet extraordinaire. Ce fut autour de la table un long murmure. « Et quoi ?» s'écrièrent ensemble plusieurs Anaïs. « Le docteur Fandango existait déjà à cette époque reculée ?»« Lui si jeune !» ajouta la gérante. Et tout l'atelier acheva. « Lui si beau !» Elvire de Rudelame poussa un long soupir.
« À qui dites-vous, murmura-t-elle, qu'il est jeune, beau, entraînant, irrésistible? Vous voyez devant vous sa victime. »
Second effet, plus fort que le premier. « L'enfant d'à côté, commença la gérante. « Il est à lui, acheva Elvire en baissant ses beaux yeux pleins de larmes. Vous dire l'émotion qui étreignit à la fois tous ses cœurs est impossible. Le docteur Fandango était un dieu pour sa clientèle. L'atelier entier se leva, mit une main sur son cœur et s'écria « Nous sommes les malades du docteur Fandango !»«
Permettez-moi d'en douter, » répliqua Elvire qui prit aussitôt une apparence de froideur.
« Ah, par exemple !» voulut dire la principale Anaïs. Mais l'accouchée de l'allée sombre l'interrompit et dit péremptoirement « Alors, montrez le cachet !»
Il y eut quelque chose d'étrange. Les piqueuses de bottines réunies se levèrent toutes à la fois et se déshabillèrent. Les corsages, les jupes, les jupons et jusqu'aux pantalons tombèrent simultanément. Abdiquant toute pudeur, les 25 ouvrières relevèrent ensemble leurs chemises et montrèrent un peu au-dessous du nombril le triangle d'un vaccin au milieu duquel était une empreinte chimique de forme ovale qui semblait être le résultat de l'application d'un timbre sec imbibé de matière caustique. Cette empreinte présentait deux initiales, DF, surmontée d'un phénix sortant des flammes. Ce tableau de 25 jeunes filles portant pour tout costume des bottines, des bas et une chemise retroussée ne laissez pas que d'être enchanteur. Si vous avez espéré toutefois nous le voir décrire plus longuement et détailler la profusion inouïe de seins fermes et polis, d'épaules de marbre, de cuisses blanches, de hanches rebondies, de fesses grasses, de ventres nacrés, liliacés et luisants, allant se perdre dans l'ombre duvetée formée par les cuisses que l'on pouvait voir à ce charmant conseil de révision, c'est que bien peu vous connaissez notre réserve. Aucun homme, d'ailleurs, n'était présent, et nous ne l'avons su que par ouï-dire. Puisse cet aveu nous servir d'excuse. Dès qu'Elvire de Rudelame eut reconnu le cachet, son visage s'éclaira d'une joie pure.
« C'est maintenant que je remercie Dieu à deux genoux, ô mes sœurs !» dit-elle dans le délire de son allégresse. « Je suis sauvée !» Mais remettez vos vêtements pour ne point offenser inutilement la décence particulière à notre sexe. »
Afin de contenter le désir si légitime de la noble accouchée, les piqueuses de bottines réunies se revêtirent. En dépit de sa position malheureuse, Elvire sautait de joie.
« Je vous reconnais, » dit-elle enfin, « je suis rassurée. Nous allons bavarder tout à notre aise. Je n'ai pas besoin de vous apprendre désormais que Paris, et sans doute l'univers entier, sont divisés en deux fractions, les malades du docteur Fandango et les chevaliers de l'élixir funeste, appelés aussi les fléaux de la capitale ou les pieuvres mâles des diverses impasses. » Elle s'animait en parlant, et si vous saviez comme elle était belle! Arrêtons-nous pour tracer son portrait. Elle avait une de ces beautés saisissantes qui ne ressemblent à rien. Son nez rappelait celui du bisaïeul qui faisait songer au bec des hiboux. Son regard était piquant, inexprimable. Rien de comparable à sa bouche, si ce n'est son aisselle qui semblait fouillée par la main d'un sculpteur très habile. La brise était amoureuse de ses cheveux, Elle ne trouvait pas de chaussures assez mignonnes pour son pied, et la meilleure ganterie de Paris faisait des miniatures en peau de Suède pour ses mains. Avec cela, noble, spirituelle, instruite, riche et pure malgré sa chute. « Je n'ai pas besoin de vous dire, continua-t-elle plus charmante à mesure qu'elle parlait, que tous les malades du docteur Fandango se portent bien et meurent d'un accident mystérieux produit par l'ingestion de l'élixir funeste. J'ai pensé parfois que l'homme célèbre et séduisant, qui marque à son cachet tous ses clients et clientes pour les reconnaître, n'avait pas réfléchi que c'était un danger, car les fléaux de la capitale profitent de ce signe pour choisir à coup sûr leurs victimes. Mais je ne puis blâmer celui qui se déguisa en porteur d'eau pour me séduire, et qui est le père de mon jeune enfant, Virtuté. » Elle reprit haleine, pendant que les filles du peuple essuyaient leurs yeux mouillés. « Ce qui va être intéressant pour vous, poursuivit-elle, c'est d'apprendre comment s'entama cette grande querelle qui divisa l'univers. Prêtez-moi une oreille attentive. À l'époque où mon bisaïeul se présenta pour la première fois chez Fandango, cette individualité hors ligne avait une cinquantaine d'années. Ne m'interrompez pas, vos étonnements sont superflus. 57 ans après cette date, je l'ai adoré sous un déguisement vulgaire. Il ne paraissait pas alors plus jeune qu'aujourd'hui. À première vue, on lui aurait donné 28 ans et 9 mois. Depuis lors, il n'a pas vieilli d'une semaine. Mon bisaïeul le trouva dans son laboratoire, entouré d'un seul livre, d'une fiole, d'une cuvette et d'un cerf vivant qui possédait des cornes d'argent massif. Tout d'abord, monsieur le duc de Rudelame fut frappé de sa souveraine beauté, quoique coriolan, vous savez que c'est le petit nom de cet idolâtré Fandango, n'eut point encore lavé ses mains ni fait sa barbe. On était au matin, ce qui explique suffisamment cette négligence chez un homme ordinairement propre et même coquet de sa personne. Le duc de Rudelame le salua et lui demanda si c'était bien au docteur Fandango qu'il avait l'honneur de parler. À son grand étonnement, ce fut le cerf, doué de bois en argent massif, qui lui rendit son salut. Le docteur lui-même restait immobile et muet comme une statue de marbre de Paros. Mon bisaïeul voulut décliner ses noms et qualités. Le cerf vivant lui ferma la bouche d'un geste froid et lui désigna la cuvette. Au fond de la cuvette, mon bisaïeul vit, avec une surprise croissante, des caractères qui se formaient sous une couche d'eau plus pure que le cristal. Ces caractères, une fois devenus distincts, donnèrent les mots « Robert, Athanase, Bonaventure, duc de Rudelame Carthagène, comte de Balamor, seigneur de Mauruse et autres lieux, présentement émigré, tourmenteur de mouches et tueur de femmes. » Mon bisaïeul releva la tête, indigné qu'il était de ce dernier trait. Le docteur était toujours immobile. Le cerf vivant remua la patte et ses cornes devinrent d'or. Monsieur le duc n'est pas un esprit ordinaire. Il vit bien qu'il avait affaire à un enchanteur et dévora l'affront. Résolu à user d'une profonde dissimulation, il prononça les paroles suivantes avec aménité. « Oh, vous qui êtes, au dire de l'histoire, un des plus grands savants de l'Europe, je m'aperçois que votre talent n'est pas au-dessous de votre renommée. Je viens vous consulter et vous prie de me marquer au timbre que vous mettez sur toutes vos pratiques. » Il tressaillit et regarda tout autour de lui. Il avait prononcé ces derniers mots d'une voix insinuante. Un organe lui répondait. Ce ne pouvait être le cerf, et les lèvres du docteur ne remuaient point. La voix semblait sortir de la fiole. Elle dit « Le cachet de la vertu ne prendrait pas sur ta peau. Cesse de feindre. Que veux-tu du maître ?» Mon bisaïeul pâlit et ses dents grincèrent, car il commençait à se fâcher. Mettant de côté, désormais, toute vaine dissimulation, il tira de sa poche le billet énigmatique composé des 13 initiales LDFEV-IATV-DEJ-T. Point d'exclamation. Au moment où le papier parut dans sa main, une harmonie sauvage mais douce se fit entendre. Elle venait de tous les côtés à la fois. On eût dit que les parois même de la chambre la suintaient. Mon bisaïeul déplia le papier et lut les initiales distinctement, puis il demanda « Pouvez-vous m'expliquer ce que cela signifie ?» La voix répondit « Oui » dans la fiole, après quoi elle en sortit pour entrer dans le livre dont les feuilles s'agitèrent vaguement. La voix dit encore « Regarde au fond de la cuvette !» Et l'harmonie sauvage mais douce se tut instantanément. Monsieur le duc regarda à travers la couche d'eau pure et put lire ces 13 mots qui se rapportaient exactement aux 13 initiales. « Le docteur Fandango est venu, dirait. Il a tout vu, dirait. Dieu est juste, dirait. Tremble !» Point d'exclamation. Les cornes du cerf vivant brillèrent en ce moment d'une façon peu ordinaire. Si ce n'eût été impossible, vu le prix de la matière, le témoin de tout cela aurait juré qu'elles étaient désormais en diamant. Il resta un instant abasourdi, sous le coup de tant de choses étranges. Mais ce n'était pas un homme à rester bien longtemps inactif. Le mystérieux billet avait été trouvé dans la chambre sans porte ni fenêtre, que nous pouvons appeler maintenant la chambre du monstre. Le docteur était venu là où tout y faisait allusion au crime. Le docteur avait tout vu. Il était maître du terrible secret. Il faut rendre cette justice à ma famille, on n'y a pas froid aux yeux. Le duc regarda son ennemi en face, car il n'y avait pas à en douter. Fandango était son ennemi mortel, et lui dit avec calme « Le billet était de vous ?» Autant parler à une pierre. Ni le docteur, ni sa fiole, ni sa cuvette ne répondirent cette fois. Le cerf même resta impassible. Mon bisaïeul se prit à ricaner et fit tout haut cette réflexion. La chambre n'avait ni porte ni fenêtre, pas de témoin. L'eau de la cuvette se rida. Sur les 13 mots placés au fond, 12 s'effacèrent. Il n'en resta qu'un seul. Dieu. Monsieur le duc eut froid dans le dos. Ce fut l'affaire d'un instant. Il ne croyait pas beaucoup en Dieu. Que prouvent toutes ces momeries? Dieu sait peut-être, mais il ne dit jamais ce qu'il a vu. C'est un témoin un peu embarrassant. Et si nous allions en justice, mon savant docteur, lequel serait cru le plus aisément? D'un charlatan comme vous ou d'un gentilhomme comme moi? » Point de réponse. « Madame la Duchesse, poursuivit le grand-père de mon père, aimait trop les Écossais. 14 coups de barre de fer rougis au feu et empoisonnés, donnés à travers le cœur, l'ésophage, le diaphragme, le grand sympathique et l'intestin grêle, suffisent à empêcher une femme de qualité de parler. Pensez-vous qu'elle viendrait témoigner contre moi ?» La chambre éclata de rire à ces mots. Je dis la chambre, car ce furent les murailles elles-mêmes, le plancher et le plafond qui produisirent en apparence cette explosion de gaieté. La statue du docteur et le cerf vivant n'y prirent aucune part. « Sambre goy ! S'écria mon bisaïeul. « Vous m'impatientez à la fin ! Rira bien qui rira le dernier ! Je ne suis pas manchot, mais comme la justice anglaise est confuse et fort imparfaite, je propose la paix. En veut-on ici ? » Le cerf brama d'une façon ironique. « On veut donc la guerre ?» demanda monsieur le duc. Cette fois, le docteur Fandango lui-même remua la tête d'une façon affirmative, comme font les biscuits chinois sur les cheminées. C'en était trop. Depuis 4 minutes au moins, mon bisaïeul méditait un nouveau forfait. Il avait dans sa poche un cric de Malaisie empoisonné avec un art extraordinaire et dont la lame, biseautée selon certaines règles mathématiques, faisait des blessures mortelles qui ne laissaient aucune trace. Sans faire semblant de rien, il introduisit sa main sous le revers de sa redingote, il y prit le cric et crac !
au moment où le docteur Fandango le croyait occupé à préparer sa sortie, il lui plongea l'arme malaise dans le sein gauche jusqu'au manche. Le cerf bondit pour protéger son patron, mais le coup était donné et d'aplomb. Un cri d'horreur interrompit ici la jeune accouchée. Ce cri appartenait à toutes les piqueuses de bottines. Il était arraché par la pensée d'un cric malais empoisonné avec soin et perçant la poitrine du docteur Fandango. Mais Elvire de Rudelame eut un sourire angélique. « Jeune fille du peuple, dit-elle, rassurez-vous, Coriolan ne mourut pas en 1793, puisqu'il est le père putatif d'un enfant né 50 et quelques années après, jour pour jour. Ne cessez pas de me prêter l'oreille. Voici une situation bien étonnante. Ce fut le docteur Fandango qui reçut le cric dans les poumons, mais ce fut mon imprudent bisaïeul qui tomba foudroyé. Expliquez ça. » Fin du chapitre 5. Enregistré par Ezois, en Belgique, en avril 2011. Chapitre 6 de La Fabrique de crimes de Paul Féval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le porteur d'eau. Le drame marchait au dehors. À l'instant où l'accouchée de l'allée sombre posait cette question à son auditoire, l'initiative de Mustapha mettait le feu au gaz délétère et lançait dans les airs nos trois amis, les pieuvres mâles de l'impasse Guéméné. C'est dire assez que nous avons rattrapé l'heure voulue et que notre histoire va bientôt marcher à pas de géant. La formidable explosion fit dresser l'oreille à quelques Anaïs, mais tel était l'intérêt excité que personne ne bougea. « Vous jetez votre langue au chien ?» continua Elvire de Rudelame, employant cette expression familière qui semble une condescendance ou une caresse dans la bouche des grands personnages. « Vous avez raison, vous n'auriez jamais deviné. » « C'est pourtant bien simple. Mon bisaïeul tomba foudroyé, non par le tonnerre, c'était au mois de décembre, mais par l'étonnement. » Il y avait de quoi? Au moment où il s'applaudissait d'avoir plongé son poignard dans la poitrine du docteur Fandango, celui-ci tourna lentement sur lui-même et montra son dos. Son dos était ma bisaïeule, Madame la Duchesse de Rudelame Carthagène, habillée comme le soir du meurtre et portant, depuis la gorge jusqu'à la hauteur des hanches, les 14 trous produits par la barre de fer rougie au feu et empoisonnée. La malheureuse était percée comme une poêle à rôtir les marrons de lion. Et au milieu de cet écumoire sortait la pointe du cric malais que le duc avait planté dans la poitrine du docteur. Vous sentez bien que je n'ai pas vu cela. J'étais trop jeune, le fait étant arrivé 38 ans avant ma naissance. Mais je le tiens de la bouche même de Coriolan qui ne saurait proférer un mensonge. D'ailleurs, il y a une preuve frappante. L'horrible haine de mon bisaïeul contre le docteur Fandango date de là. Il aurait pu lui pardonner une innocente mystification. Il ne lui pardonnera jamais d'avoir ressuscité la duchesse. Car la duchesse vivait. Vous la verrez par la suite agir comme père et mère. Si elle parla ce jour-là, monsieur le duc n'en sut jamais rien, car il se retrouva quelques heures après dans son appartement où il avait été reporté, évanoui, par des mains inconnues. Il ne demanda pas son reste et partit pour les mers polaires, où il resta enseveli plusieurs années au sein des glaces éternelles pour laisser étouffer le bruit de son aventure. En ces pays froids, il n'acquit pas une bonne réputation. Les naturels l'accusaient d'attirer chez lui les petits-enfants et même les jeunes filles pour boire leur sang et se nourrir de leur chair. C'était des calomnies. Depuis mes plus tendres années, je mange à sa table. Jamais je n'y ai goûté de chair humaine. Il faut se garder des exagérations. Hélas, ce centenaire n'est-il pas assez chargé de crimes? Il ne mange pas les enfants ni les jeunes filles, mais il les emploie à d'autres usages également domestiques. Leur graisse lui sert à composer des onguents qui prolongent sa coupable existence. Il prend des bains de jeune sang qui reverdissent sa vieillesse remarquablement avancée. Vous frémissez. Moi, j'y suis faite. La fatigue me prend, et nous n'en sommes encore qu'au commencement de la restauration. Je n'aurai pas la force, je le sens bien, de vous raconter l'histoire du père de Mustapha, ni celle de la mère infortunée de Mandina de Hachecor. Franchissons donc 56 années.
C'était un soir d'automne, dans cet immense palais qu'on nomme l'hôtel de rue de l'âme carthagène et qui décore l'une des rues les plus fréquentées du faubourg Saint-Honoré. L'air était tiède et mou. Les dahlias élevaient vers le ciel leur parfum fade qui se mêlait aux subtiles senteurs de l'oignon dont on sarclait un carré dans un jardin à quelques coudées de ma fenêtre. L'horloge de Saint-Philippe d'Urule venait de sonner 7 heures. Ma jeunesse avait été solitaire. Je n'avais fréquenté que Timidita, la fille de notre concierge, et M. Catimini, mon professeur de piano, qui s'était permis, sur ma personne, une grande quantité de lâches attentats, toujours repoussés par ma candeur alliée à ma pudeur. Quand mon enfant, qui est une fille, aura l'âge des passions naissantes, plutôt que de lui donner l'autre sexe pour professeur de piano, je la plongerai à Saint-Lazare. Les vibrations de l'horloge se balançaient encore dans les airs, lorsqu'une voix mâle et sonore prononça sous ma fenêtre ce cri bien connu des ménages parisiens. « Qui veut de l'eau ?» La dernière de ces deux diphtongues montait à l'octave de la première. Ce cri était d'autant plus inusité dans notre illustre demeure que nous avions partout l'eau de Seine. Il me jeta dans une étrange rêverie. Étais-je mûr pour la poésie ? Traversais-je un de ces quarts d'heure bénis que l'être suprême, dans sa sollicitude, a marqué pour le sentiment? Je ne sais. J'ignore tout. On n'a jamais pu m'apprendre l'arithmétique, mais j'ai mon cœur. J'appelai Olinda, la première de mes 9 caméristes, et je lui dis « Olinda, roule-moi une cigarette, je ne sens plus mon âme. » Elle était grecque de naissance, mais française par le goût des loteries autorisées dont les gros lots la rattachaient à l'espérance. Elle a perdu depuis, dans ses entreprises, son innocence et ses économies. Pour 1 franc, vous pouvez y gagner des sommes importantes. Mais vous ne voyez jamais arriver cette somme, ni revenir votre franc. « Olinda, repris-je, d'où vient que la voix de ce jeune porteur d'eau me brûle les bronches et met des battements insensés sous l'étoffe de mon corsage ?» Je ne l'avais pas vue, mais mon imagination désordonnée avait deviné l'homme de 28 ans à son organe enchanteur. Olinda me répondit « Pour faire une connaissance, autant attendre un officier ou quelqu'un de chez l'agent de change. Moi, un porteur d'eau, ça ne me chausse pas. » L'insensé. Je ne crache ni sur les officiers, ni sur les employés de la haute banque, mais il y a porteur d'eau et porteur d'eau. Ma fièvre me disait que celui-ci était un prince. Que dis-je, un prince ? C'était le fils de la condamnée, c'était Coriolan, le mystérieux aborigène des ruines de Palmyre, c'était le docteur Fandango. Olinda, pure comme l'acier et fidèle autant que lui, me roula une cigarette. Je préférai une prise de tabac, puis un chou à la crème, puis n'importe quelle bagatelle peu coûteuse. J'étais hystérique et fantasque. Cela peut arriver à tout le monde. Ma seconde femme de chambre, Herminie, native du bois Meudon, où elle avait été trouvée au bord de l'eau, dans un foulard démarqué, peu d'heures après sa naissance, probablement tant tachée d'inconséquence, entra en ce moment et déposa à mes pieds un bouquet de fleurs rares, entouré de papier glacé. Je tressaillis, car leur odeur attaqua mes nerfs d'une façon à la fois délicieuse et irritante. Je mordis la troisième de mes suivantes, et Luciole, la quatrième, une Suissesse sangoître de la plus grande beauté, ayant témoigné sa surprise, reçut de moi un dangereux coup de pied dans les lombes. Cela était si éloigné de mon caractère que mes autres confidentes s'enfuirent et ne sont jamais revenues. À l'intérieur du bouquet de fleurs rares était une lettre en chiffres, accompagnée d'un autre papier qui en donnait la clé. Si j'avais gardé quelques doutes, ils se seraient évanouis à la vue de cette double précaution dénotant une grande délicatesse. « Qui que tu sois, m'écriai-je en moi-même, ô mon jeune inconnu, tu n'appartiens pas à la simple bourgeoisie. » La lettre était ainsi conçue. 1-7,34594,29035496,69. Mais il vaut mieux vous la traduire en langue vulgaire. Ma chère demoiselle Elvire, la génération spontanée est une idée toute moderne. J'ai lieu de croire que j'en suis le produit. Mon berceau fut la solitude sablonneuse et aride. Je n'ai ni père ni mère, ni oncle ni tante, ni cousin ni cousine. Je pourrais prolonger cette énumération. Je préfère vous dire en un seul mot que je suis à l'abri de toute espèce de famille. Cela me rend indépendant et pensif. Ma famille, c'est l'humanité. Vous me demanderez peut-être alors pourquoi on m'appelle le fils de la condamnée. Ceci mérite une courte explication. Vous n'ignorez pas les soins que les Arabes accordent à leurs coursiers. Non seulement ils les nettoient avec minutie, mais encore ils partagent avec eux leur propre nourriture. En outre, ils en éloignent avec sollicitude toute cause de maladie. Par une claire matinée de printemps, Saali, la plus belle jument des Haras de Ben-Hadour, fut accusée de maladie. Le conseil des vétérinaires du Sahara l'examina et la condamna à être abattue. Mais Abdelkader, son maître, chargé de l'exécution, eut pitié d'elle. Il fallait cependant qu'elle disparût dans l'intérêt des autres cavales. Abdelkader lui attacha au cou un sac de dattes et un panier de maïs, puis, l'ayant conduite aux confins du territoire, il lui dit en versant des larmes « Oh, ma cavale préférée, Allah et Allah, tu es incommodée d'une maladie incurable. Fuis jusqu'aux ruines de Palmyre où est l'herbe de la guérison. » Palmyre, aussi nommé Cadmor, dut son origine au roi Salomon, célèbre par ses dérèglements et sa sagesse. Elle fit un grand commerce de commissions et de transits sous l'incomparable Zénobie, veuve d'Odéna. Des voyageurs y trouvèrent mon berceau. Je suis musulman par mon baptême. J'étais né depuis quelques heures au sein même des splendides décombres, sur le seuil d'un palais ruiné qui portait le numéro 179 de la rue de l'Euphrate. Quel fut mon étonnement de voir arriver Saali. On est médecin. Je la guéris malgré mon peu d'expérience. En retour, elle me nourrit de son lait. Saali avait été condamnée par le conseil des vétérinaires du Sahara. J'étais le nourrisson de Saali. Ne vous étonnez plus qu'on m'ait nommé le fils de la condamnée. Rien de plus logique. Ici, l'atelier des piqueuses de bottines manifesta son mécontentement par des murmures et Anaïs, la gérante, crut pouvoir demander à la belle Elvire « Est-ce qu'elle va durer longtemps, la lettre du docteur ?» Léocadie ajouta « Elle est drôlement tannante !» Elvire de Rudelame Carthagène réprima un mouvement de colère. « Vous eussiez mieux aimé, fille du peuple, que le suave Fandango eût reçu le jour dans les cachots de l'Inquisition ou au pied de la guillotine ? Il vous faut des émotions âcres et poivrées ? C'est bien. Ma position malheureuse exige une grande prudence. Je vais abréger. » Saali était musulmane. Quand Fandango fut reçu docteur, il traversa les mers avec elle et vint à Paris. Saali traîne maintenant le fiacre de Mustapha. Elle est heureuse. Je passe une grande quantité de pages et j'arrive à la fin. Mon passé est un abîme, mon présent un poème, mon avenir une vapeur. Voilà pourquoi, ma chère demoiselle, j'ai pris ce déguisement de porteur d'eau qui était indispensable. Minuit sonnant, à l'aide d'un truc connu de moi, je pénétrerai dans votre chambre à coucher par la cheminée. Si vous vous y opposez, sonnez du cor par trois fois. Si au contraire, vous exaucez mes vœux, mettez une fleur de pervenche à votre boutonnière. Celui qui vous aime plus que la vie, Coriolan, le fils de la condamnée. Je n'ai pas besoin de spécifier que cette lettre ne calma en rien ma fièvre brûlante. Comme j'en achevais la lecture, l'organe de mon séducteur s'éleva au lointain et lança une dernière fois dans l'atmosphère ce cri caractéristique « Qui veut de l'eau ?» J'appelai Olinda et j'eus des spasmes douloureux sur son sein. Ma perplexité était indescriptible comme le caméléon lui-même. Devais-je sonner du cor ou attacher une fleur de pervenche à mon corsage? Ma pudeur penchait vers le cuivre, mon amour allait vers la fleur. Je n'avais jamais vu Coriolan, il est vrai, mais sa lettre, dont vous m'avez contrainte à couper la portion la plus attachante, allumait dans mes veines un véritable incendie. Néanmoins, la pudeur fut en moi la plus forte. J'allais saisir le cor, lorsque Olinda, qui devenait mon cœur, me tendit la pervenche fatale. « À la bonne heure !» s'écria d'une seule voix l'atelier des piqueuses de bottines réunies. « Le sort en était jeté, » reprit la jeune accouchée. Je fis un bout de toilette et j'attendis la douzième heure, en proie à des sensations inexprimables. Minuit sonna. Un bruit qu'il serait malaisé de définir se fit entendre dans le tuyau de ma cheminée. Malheureusement, elle était à la prussienne. Je m'attendais à chaque instant à voir déboucher mon coriolan, semblable à un immortel, quoiqu'un peu souillé de suie. Rien ne vint. Le conduit était trop étroit. Après une demi-heure d'angoisse, pendant laquelle les gémissements inarticulés de mon séducteur me brisèrent l'âme cent fois, Olinda me dit « Il n'y a pas à tortiller, il faut aller chercher le fumiste. » L'idée d'un pareil scandale m'arracha des hurlements. « Le fumiste, à cette heure de la nuit, et qu'allait-il trouver dans le tuyau de la cheminée ?»« Il faut avoir passé par ces traverses pour en soupçonner l'amertume. » Mais à de pareilles heures, l'âme se raidit et acquiert un ressort incalculable. Il me restait quatre confidentes. J'ordonnai à trois d'entre elles de parcourir les corridors de l'hôtel et de verser des narcotiques puissants à tous ceux qui n'étaient pas encore endormis. Cette précaution me garantissait le mystère. Quant à Olinda, je l'envoyai chez le fumiste. Elle avait mis un masque pour n'être point reconnue dans l'obscurité. Moyennant une somme considérable, le fumiste consentit à quitter les moiteurs de son lit et se laissa bander les yeux. En cet état, on le fit monter dans un fiacre sans numéro, et après mille détours, on l'arrêta à la porte de l'hôtel. Tout y dormait. L'effet du narcotique avait été instantané. Olinda et le fumiste trouvèrent les corridors jonchés de serviteurs plongés dans le repos. Ils entrèrent chez moi par une porte dérobée dont nul ne soupçonnait l'existence, et le fumiste ayant ôté son bandeau, je poussai un long cri de satisfaction. C'était le rémouleur. Je savais tout, me dit-il avec cordialité. J'ai éloigné le vrai fumiste sous un prétexte, et j'ai pris place dans son lit pour le cas où le fils de la condamnée aurait besoin de moi. À l'ouvrage. Il se mit alors à attaquer le mur de ma chambre avec un marteau de maçon entouré de vieux linges pour empêcher le bruit. Olinda avait eu une jeunesse déréglée, mais elle n'avait jamais connu le véritable amour. À son regard qui enveloppait le faux fumiste comme une flamme, je devinai le besoin secret de son cœur. « Jeune grecque, lui dis-je, veux-tu épouser cet inconnu ?» Elle se jeta à mes pieds et embrassa mes genoux pour cacher son trouble. Je la relevai en murmurant à son oreille avec une caresse. « Attends qu'il ait démoli le mur, je bénirai votre union. » Le rémouleur, cependant, éprouva une certaine difficulté à percer ce vieux plâtras. Son marteau rebondit plusieurs fois contre des ossements humains, car le palais de mes ancêtres était presque entièrement bâti avec les produits de leur crime. Il retira une grande quantité de squelettes ayant appartenu à de vieilles chanoinesses ou à de jeunes vierges. Aussitôt qu'il eut pratiqué un trou assez grand pour donner passage à un homme, une voix sonore et agréable sortit de la cheminée. « Qui vive ? » demanda-t-elle avec anxiété. « Malade du docteur Fandango. » répondit le rémouleur sans hésiter. « Aucun des trois pieuvres mâles de l'impasse Guéméné n'est à l'horizon ?» demanda encore la voix agréable. « Aucun. La fille de l'assassin de sa famille a-t-elle sonné du corps par trois fois ?»« Non, au contraire, elle a une fleur de pervenche à son corsage. »« C'est bien. Compagnons de l'humanité, sortez de votre asile. » Aussitôt s'élancèrent du trou le jeune et vaillant Mustapha, mon cousin par alliance, qui dissimule ses ancêtres sous la profession de cocher de fiacre, Simon le joueur d'orgue, Mandina de Hachecor, vêtu d'un domino noir, le véritable Silvio Pellico, et d'autres. L'avant-dernier était le prêtre éthiopien dont j'ai omis de vous parler jusqu'à ce jour. Je remarquai avec étonnement que cet ecclésiastique n'avait qu'un bras, qu'une jambe et qu'un œil. Le dernier était le fils de la condamnée. Fin du chapitre 6, enregistré par Ezois en Belgique en avril 2011.
Chapitre 7 de La Fabrique de crimes de Paul Féval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public.
Trahison. Il faudrait la plume d'or des poètes pour vous dire l'effet produit par l'anecdote des aventures du faux fumiste sur les piqueuses de bottines réunies.
Aviez-vous cru, s'écria tout à coup Mademoiselle de Rudelame en pleurant, fût-ce pendant le quart d'une seconde, aviez-vous cru, jeune fille du commun, que la descendante de mes aïeux, l'amante de Coriolan, était coupable? La présence seule du prêtre éthiopien doit vous dire avec quelle régularité les choses se passèrent. Le docteur Fandango ôta son costume de porteur d'eau. Il avait par-dessous des vêtements propres et d'une étonnante magnificence. À son médium était le diamant du vieux de la montagne qui lui fut donné par la reine. Tous les ordres étrangers brillaient sur sa large poitrine. Il s'était fait la barbe peu de temps auparavant. Que dire ? Vous connaissez sa beauté ? Tous les jolis garçons qui l'entouraient avaient l'air de ses domestiques. Il mit un genou en terre devant moi et me passa au cou un joyau en corail aquatique d'un prix extravagant, aussi précieux par la matière que par le travail, en murmurant « Vierge adorée, ceci est la croix de ma mère. » Son émotion était maladive. Il ajouta « Grâce aux effets du porteur d'eau, j'ai surmonté tous les dangers inséparables de mon entreprise. Désormais, soyons tout au bonheur. » Sur un geste de lui, les lambris de ma chambre à coucher furent immédiatement tendus de satin vert clair, parsemés de bouquets de topazes. On répandit des parfums sur le tapis, tandis que d'autres aromates brûlaient dans les cassolettes orientales. Un autel se dressa en face de la cheminée à la prussienne. Simon avait apporté son orgue de barbarie, et c'était justement cet objet qui n'avait pas pu passer par le tuyau. Il joua dessus plusieurs morceaux tendres et anacréontiques. Puis le prêtre mutilé d'Éthiopie nous unit devant Dieu. Il unit aussi, par la même occasion, le rémouleur et Olinda, ma première confidente. La cérémonie se passa très bien, sauf un incident, en apparence vulgaire, mais qui aurait dû nous donner à réfléchir. Au moment où le prêtre nègre prononçait sur nos têtes de saintes paroles en un langage incohérent, il éternua. Nous nous aperçûmes qu'un vent coulis venait du côté des fenêtres. Elles étaient restées entr'ouvertes. On courut les fermer, mais il était trop tard. Le prêtre d'Éthiopie, qui n'avait qu'un bras, qu'une jambe et qu'un œil, ajoutait maintenant un rhume de cerveau à ses fâcheuses infirmités.
Est-ce pour vous entretenir de ce détail que j'ai parlé des fenêtres ouvertes?
Non. Au travers des carreaux, le noble Mustapha crut voir une tête de hibou. Il s'approcha pour mieux regarder et aperçut dans le feuillage des sycomores, plantés en rond autour du bassin de Mercure, une multitude d'ombres humaines et fugitives. La lune qui se cacha sous un nuage opaque cessa d'éclairer la nature. Mustapha crut s'être trompé. Il ne parla point. Il eut tort. Un seul mot de sa bouche nous eût épargné un épouvantable péril et 9 mois de tortures atroces qui me furent particulières et privatives, car mon Coriolan resta libre. La cérémonie achevée, Mandina de Hachecor, qui me servait de dame d'honneur, fit comprendre au reste de l'assemblée que l'heure de la retraite avait sonné. Nos amis s'éloignèrent au son de l'orgue de barbarie qui jouait un air connu dans les corridors pour étouffer le bruit de leurs pas. Coriolan était enfin seul avec son Elvire. Oh, jeune fille, mesurez la nouveauté de cette situation. Nous étions mariés, nous nous aimions avec délire, et c'était la première fois que nous nous rencontrions dans le monde. Mais il avait acheté ma photographie, et sa brillante renommée me le rendait familier. Il prit place auprès de moi sur le sofa, si jeune, si beau, et surtout si bon, que je m'accoutumai à lui tout de suite. Puis le sommeil nous gagna tout doucement. Puissance divine, quel réveil nous attendait! La vision du noble Mustapha, dont il a été précédemment question, n'était pas une chimère. Le visage de hibou, aperçu à travers les carreaux, appartenait à mon bisaïeul, et les formes sombres, perchées dans les sycomores, étaient celles de ses sicaires. Une de mes confidentes avait trahi notre secret. Mon bisaïeul, éveillé en sursaut vers minuit, avait vu près de sa couche cette fille sans entrailles, Herminie, native du Bas-Meudon, celle-là même qui m'avait apporté le bouquet de fleurs rares, entouré de papier glacé.
« Pendant que vous dormez, lui dit-elle, imprudent vieillard, votre arrière-petite-fille est en train de se mésallier à un porteur d'eau alsacien. »
Le duc bondit hors de ses draps. Il se trouvait devant une personne de l'autre sexe. N'importe, son grand âge le forçant à porter toujours des pantalons de flanelle, il était en état. Il appela ses valets. Ce fut en vain. Le narcotique faisait admirablement son office, les tenant enchaînés dans le sommeil. Alors, sachant bien qu'il ne pouvait s'attaquer tout seul au fils de la condamnée, il monta au sommet d'une tour et alluma le phare. Un quart d'heure après, 38 à 40 pieuvres mâles des divers impasses de Paris arrivaient à l'hôtel. Vous avez deviné que le phare était un signal. Mon bisaïeul les rassembla dans la grotte et leur dit sans préambule « J'ai assez vécu pour voir le déshonneur de ma maison. Coriolan Fandango, natif des ruines de Palmyre, en Asie, exerçant la médecine à Paris, sans diplôme, a pénétré dans mon domicile à la faveur d'une veste de porteur d'eau et s'est uni aussitôt à ma riche héritière. « Qui vous a révélé ce mystère ?» demanda le pieuvre mâle de l'impasse Tivoli. Mon bisaïeul montra Herminie du Bas-Meudon. Cet infortuné tomba, frappé de 38 à 40 coups de yatagan. « Comme cela, dit la hyène de l'impasse Tivoli, elle ne fera plus de cancan dans le voisinage. » Monsieur le duc approuva d'un signe de tête et reprit « Je suis dans l'embarras. Que chacun me donne son avis avec franchise. » Les pieuvres s'assirent sur les tombes et la délibération commença. L'ancien professeur de la cité Jarry proposa d'introduire du méphitisme pur dans la chambre nuptiale à l'aide d'un tube en gutta-percha. Carapace offrit d'inoculer aux deux époux une maladie charbonneuse. La hyène de l'impasse Tivoli conseilla de les étouffer en faisant tomber sur eux le plafond de leur appartement. Mais mon bisaïeul repoussa ces divers expédients comme ayant déjà servi. On pouvait l'en croire, c'était un connaisseur. Dans les veines de la trop coupable enfant, dit-il en parlant de moi, est renfermée la dernière goutte du sang de Rudelame Carthagène. Je veux la garder vivante afin de la torturer à mon aise. Boulet Rouge, la principale pieuvre mâle de l'impasse Guéménée, n'a pas encore parlé. Son expérience m'étant connue, je l'adjure de me fournir un truc pour anéantir le fils de la condamnée sans exposer les jours d'Elvire. Boulet Rouge se leva. Chacun connaît l'emplâtre de dimension inusitée qu'il porte sur son visage pour éloigner tous les soupçons. Il le repoussa un peu de côté et dit « En fait de procédé, on n'a qu'à choisir. Les inventions nouvelles offrent un champ fertile. Il suffira de prendre un fil de métal, bon conducteur, et d'en isoler l'extrémité. Vous ferez passer le fil à travers le corps des deux mariés, en ayant soin toutefois que la partie isolée soit seule dans l'estomac de Mademoiselle de Rudelame. Vous enverrez alors une dépêche qui ravira le jour à Fandango en passant, mais qui, arrêtée par la matière isolante, épargnera l'existence de la jeune et belle Elvire. » La simplicité de cet appareil réunit tous les suffrages. On leva la séance pour s'occuper des voies et moyens. Pendant que, plongés dans une sécurité trompeuse, Fandango et moi nous dormions, tout conspirait ainsi contre notre bonheur. À 3h30 du matin, je fus réveillé par un léger bruit. Aux lueurs vacillantes de la lampe d'opale, je vis un spectre à la fois fantastique et plein d'une effrayante réalité. Le plafond était ouvert, le plancher était crevé. 38 à 40 pieuvres mâles surgissaient du sol ou descendaient en rampant le long des lambris tendus de satin vert clair. Il y en avait qui se glissaient sur le tapis comme des sauriens gigantesques. Il y en avait qui dégringolaient par les colonnes de notre couche. Au centre de la pièce, mon bisaïeul, que je reconnus seulement à son visage de hibou, car un costume de lancier polonais dissimulait sa vétusté, mettait la dernière main à l'appareil électrique. Je crus être le jouet d'un rêve, jusqu'au moment où on donna le signal, qui était un chant d'alouette à cause de l'heure matinale. Mon bisaïeul retroussa aussitôt les manches de son uniforme et se mit en devoir de passer l'appareil au travers de nos corps. Je ne pus m'empêcher de jeter un cri. Aussitôt, les 38 à 40 yatagans sortirent hors du fourreau tandis que mon époux, réveillé en sursaut et comparable aux demi-dieux du paganisme, cherchait son revolver afin de se mettre en défense. Il ne le trouva pas, monsieur le duc le lui avait volé. Alors, le fils de la condamnée poussa une exclamation terrible, à laquelle répondit le braiement de son cerf vivant, qui l'attendait sous la charmille. « Vampire ! Dit-il avec force. Coléoptère ! Rebut des civilisations et de l'histoire naturelle ! Il me reste une ressource !» Et roulant avec rapidité sa cravate autour du cou de l'hyène de l'impasse Tivoli, il l'étrangla comme si c'eût été un enfant naissant. Les autres conjurés, frappés de ce tour d'adresse, reculèrent. Il n'en fallut pas davantage. Fandango s'élança dans la cheminée à la prussienne et disparut à tous les regards. Presque aussitôt après, on entendit le galop du cerf dans les bosquets et une voix terrible éclata dans le silence de la nuit. C'était la sienne. Elle disait « Je m'éloigne sur mon cerf, natif comme moi des ruines de Palmyre. Tremblez, dans 9 mois l'heure du châtiment sonnera. »
« Il est sauvé, m'écriai-je, je puis m'évanouir. »
Et je perdis l'usage de mes sens au moment où nos ennemis témoignaient de leur désappointement et de leur aigreur. Quand je revins à la vie, je cherchai en vain la lumière du jour. On avait muré les portes et les fenêtres de ma chambre nuptiale, qui étaient transformées en tombeau. Auprès de moi, il y avait un pain de munitions, une cruche d'eau saumâtre et des noisettes. J'en cassai une avec indolence. Un papier s'en échappa. Fin du chapitre 7, enregistré par Ezoa, en Belgique, en avril 2011.
Fall into big savings, all in the Kroger app. Get packs of juicy red, green, black, or tri-color variety seedless grapes for $3.99 each. Then get tender boneless chuck roast or steaks for $4.99 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.